Bonjour à toi, quel est ton prénom?
Bonjour, je m'appelle Anka.
Anka. Alors, Open Food Facts, super. Alors, tu sais que Open Food Facts, France en tout cas, a été soutien de la candidature de Libre à toi pour une fréquence FM au CSA. Alors donc, je suis d'autant plus heureux de t'avoir pour nous parler d'Open Food Facts. Qu'est-ce que c'est?
Donc, Open Food Facts, c'est une base de données d'informations sur les produits alimentaires.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui font des signes qui...
Où ça?
Non, mais c'est compliqué ici.
Ah
non,
oui, bah oui, bah c'est attends, mais non, mais là c'est compliqué de se concentrer sur une conversation alors qu'il y a plein de choses qui se passent
et
autour.
Et qu'on bave devant ce gâteau ouais. Superbe
mais,
qui est devant nous.
Mais regarde, Ludovic s'en est très bien sorti, on dirait qu'il a fait de la radio toute sa vie.
Non, mais Ludo, il a des capacités spéciales.
C'est le président d'XWiki en même temps.
Ouais, non, mais c'est... Donc, Open Food Facts, c'est une base de données d'informations sur les produits alimentaires. C'est le Wikipédia des produits alimentaires. L'idée, c'est de pouvoir apprendre des choses sur ce qu'on mange. Apprendre des choses dans le sens de essayer de comprendre un peu toutes ces informations qui sont écrites sur les étiquettes des produits, soit trop petits, soit des infos différentes sur chaque étiquette. Il y en a quelqu'un qui va marquer un additif avec un E quelque chose, l'autre qui va marquer l'additif avec les lettres parce que
mais c'est le même en fait.
C'est exactement le même, voilà. Donc ça permet de comprendre un peu les étiquettes des produits. Et moi, une fonctionnalité que j'adore, c'est de comparer les produits. Comme c'est une base de données énorme en France, je pense qu'on est à peu près à 80 000 produits.
Ah oui, non, mais c'est absolument énorme.
Ouais. J'espère que je ne me trompe pas. Si ce n'est pas 80 000, c'est 60 000. Mais
non,
de toute façon, c'est quelque...
Effectivement, ce chiffre évoque quelque chose.
C'est ouais. Très élevé. Donc, ça permet de comparer les produits entre elles et d'apprendre, par exemple, qu'il y a des produits de la même catégorie que le produit qu'on vient de manger qui n'ont pas le même additif. Moi, une surprise que j'ai eue, c'est que je mangeais des soupes. Moi, je ne suis pas une fofolle de l'alimentation. Je ne suis pas... voilà, je n'ai pas de... Je faisais pas et je fais toujours pas attention particulièrement à ce que je mange, mais ça m'intéresse. J'ai une curiosité comme tout le monde. Tout le monde est un peu curieux par rapport à ce qu'on mange, voilà, moi aussi. Et j'ai appris plein de choses.
Et notamment.
Et donc je mangeais cette soupe. C'était une soupe en brique, machin. J'ai lu l'étiquette, enfin je l'ai scannée bien
ouais,
sûr,
ouais.
Parce que Open Food Facts, ça marche avec son téléphone mobile. Je
voilà, raconte-nous comment ça
voilà,
marche.
Voilà, il faut le dire comment ça marche.
Ouais.
Il y a une appli mobile, on prend son téléphone, on scanne le produit, le code barre de ce produit et...
tu accèdes à la base
Tu accèdes à la
totale
base,
de sa
voilà, tu
composition.
Tu accèdes aux informations qui sont disponibles sur ce produit. S'il n'y a pas d'infos disponibles, l'application va te proposer de prendre toi-même les photos de l'emballage pour qu'on puisse remplir après les informations sur le produit à base de ces photos. C'est important d'avoir les photos et c'est important d'avoir les informations à base des étiquettes de produits parce que toutes les lois en France sont pour les étiquettes, c'est pas pour autre chose. Par exemple, si le fabricant veut présenter des choses sur son site web par rapport à la composition de ses produits, les lois sont beaucoup moins strictes sur ça que sur ce qui est présent effectivement sur l'étiquette. Donc les lois sont là-dessus, donc on utilise ça comme source d'information. Et donc j'ai pris mon téléphone mobile, j'ai scanné cette soupe et j'ai découvert qu'il y avait dedans des additifs controversés. Voilà, je ne vais pas dire le nom parce que je ne veux pas que les gens écoutent et se disent « Ah, ça c'est mauvais pour la santé ». Voilà, chacun juge avec ses propres connaissances et avec ses propres informations si c'est bon ou pas. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un additif controversé. Et je me suis dit, parce que c'était un exhausteur de goût, maintenant tout le monde sait de quoi je parle, bon bref. Donc, et je me suis dit, c'est normal, c'est une soupe dans un carton qui est valable 3 ans, c'est normal qu'il y a des exhausteurs de goût, ça ne peut pas avoir un goût. Et en cherchant dans cette base de données énorme...
T'as trouvé la même soupe?
J'ai trouvé, non, enfin le même type de produit, voilà.
Sans cet exhausteur de goût.
Sans cet exhausteur de goût, et je me suis rendu compte que oui, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, et que finalement c'est aussi un choix du fabricant de mettre ou pas un certain additif dans les produits et tout ça.
Et t'as goûté la fameuse autre soupe?
Ouais, j'ai...
Et alors?
Non, il n'y a aucune différence en fait.
Ah bah voilà.
Ouais, peut-être que... que j'ai le palais pas assez affûté, mais en fait, pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, et pareil pour les biscuits, par exemple. On regarde un biscuit, on trouve qu'il y a 54% de sucre dedans. En regardant les infos nutritionnelles, on n'a pas forcément besoin de point food fact pour ça, mais ça aide.
Mmh,
et en fait, on se dit, c'est un peu normal que les biscuits soient à 40 grammes de sucre par 5 grammes de produits. Mais en fait, en regardant la grande base de données, on se rend compte que non. On se rend compte qu'il y a des biscuits qui sont à beaucoup moins que ça et ça. Et c'est ça la grande valeur, en fait. Enfin, une des grandes valeurs de cette base de données, c'est que ça nous permet de comparer les produits et ça nous permet d'apprendre des choses sur ce qu'on mange, de sortir un peu d'aller un peu plus loin qu'on va au supermarché, on prend les choses qui nous plaisent bien et qu'on mange toujours la même chose et qu'on se pose pas de questions.
Qu'on achète par critère de prix aussi.
Mais le critère de prix, il peut rester quand même, en fait. Faut pas se dire que tout le monde peut choisir, peut ignorer ce critère parce qu'il y a des gens.
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Voilà, mais il y a plein d'autres critères. On peut. Ça nous permet d'ouvrir. Enfin. D'apprendre des choses. Voilà, moi ça m'a permis d'apprendre des choses.
Alors juste un petit point de détail, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
C'est Anka.
Anka. Concernant ceux qui nous écoutent, Open Food Facts, la base de données, elle est accessible uniquement sur l'appli qu'on télécharge.
Non, il y a un site web. Donc il y a le site web openfoodfacts.fr et c'est d'ailleurs là qu'on peut trouver ces informations d'agrégation des infos sur les produits.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et aussi la base de données est libre, c'est ça l'idée en fait. L'idée principale, c'est que ces informations-là sont dans une base de données libre et accessible à tout le monde et réutilisable et tout ça. Donc c'était l'idée justement de fournir ces données dans un... de les mettre ensemble et de le rendre disponible aux gens qui vont faire des choses avec. Et faire des choses avec, ça commence avec des applications pour détecter les allergènes,
oui,
s'il y a des gens qui
absolument.
Ont besoin. Et ça finit avec des jeux sur devinez combien de sucre il y a dans cette bouteille de ketchup. Voilà. Et alors,
Anka, Ludovic t'a présenté comme contributrice de Open Food Facts. Qu'est-ce que tu fais pour eux?
Je remplis des produits pour commencer.
Ouais.
Je remplis aussi des produits roumains.
Ok.
Parce que
tu vis en Roumanie en
Non,
fait.
Je ne vis non, pas en Roumanie,
d'accord.
Je vis à Paris, mais je voyage. Il y a des pays qui ne sont pas très remplis sur Open Food Facts.
Ouais, ouais.
La France, elle a très très bien décollé, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas si remplis que ça. Et donc je scanne des produits de France, de Roumanie. Donc déjà je contribue des produits et je participe aussi. Je participe aussi par exemple à.
Tu vends très bien en fait la chose. Déjà à la radio.
Je vends la chose à la radio. Donc
tu es la responsable de com.
Non, c'est
pour
pas
la
moi.
France.
Il y a des gens qui parlent encore mieux que moi.
Ouais.
Donc, je traduis des choses, donc je rends le logiciel accessible. Je traduis par exemple l'interface du logiciel ou la catégorisation des produits et tout ça en roumain. Donc, je fais ça sur la langue que je parle. Et puis après, j'ai aussi participé à un mode développement. J'essaie de contribuer des petites améliorations au logiciel, soit l'application mobile, soit le logiciel qui fait le site web. Et aussi, depuis peu, je suis membre dans le conseil d'administration de l'association.
C'est une asso à la base.
C'est une association 1901 et je fais partie du conseil d'administration. Donc j'essaie d'aller un peu plus loin dans cette... d'être impliqué un peu plus dans la vie de Open Food Facts. Donc faut quand même donner les remerciements. Donc je voudrais remercier aux gens qui ont créé le projet parce que c'est pas mon projet à moi.
Alors c'est qui?
Voilà, justement, c'est Stéphane.
Ah. C'est pas grave, continue à parler en fait.
Parce que le retour est coupé.
Il y a le retour qui est coupé, mais ça continue. En fait.
Donc, c'est Stéphane Gigandet qui a créé le projet il y a peut-être. Je pense que c'est plutôt vers 2007, un truc comme ça. Donc, lui, il a créé le projet, il a fait une bonne partie du chemin tout seul, avec des contributeurs de produits et. Et maintenant, on est plusieurs dans le projet qui travaillons autour de cette idée qui nous plaît beaucoup. Et on a aussi des petits bébés de ce projet-là.
Ouais.
Il y a le projet Open Beauty Facts.
C'est quoi? Alors, je ne le connais pas.
C'est la même chose avec les produits de beauté. Voilà, c'est très simple. C'est exactement la même chose.
Il y a de quoi faire, je pense.
Voilà.
En termes de composition, c'est pareil. Il y a déjà un site, une appli, de quoi scanner. Il y a tout.
Oui, il y a quasi tout. C'est juste la base de données. Elle est beaucoup, beaucoup plus petite que la base de données des produits alimentaires.
Donc, tu vas contribuer.
Oui, je mets aussi des produits de beauté quand j'ai l'occasion. La différence, c'est que pour transférer les informations, en fait, parce que l'idée, c'est qu'il y a des gens, il y a des contributeurs, il y a tous ces contributeurs, en fait, qui transfèrent les informations des photos, les textes des photos, dans des informations textes dans la base de données. On a de la reconnaissance de texte qui aide, mais ça ne suffit pas. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire les étiquettes des produits alimentaires, mais des fois c'est complètement illisible.
Ah ouais, non, mais c'est clair.
Et on imagine qu'on prend une photo dans des conditions très bizarres et on essaye après d'utiliser un logiciel pour reconnaître le texte. Ça peut être assez difficile. Donc il y a plein de gens qui recopient, on va dire, les étiquettes. Il y a une différence énorme entre recopier farine et recopier 2-3 polybutanol de je sais pas quoi. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc les ingrédients des produits de beauté sont complètement différents des ingrédients de produits alimentaires. Mais des fois, on trouve aussi des choses...
Et c'est pire en plus. Ils sont beaucoup plus longs, ils sont en latin.
Oui, ils sont beaucoup plus longs, ils sont en latin. Mais dans les produits alimentaires, il y a aussi des choses qu'on a du mal à prononcer.
Oui, mais il y a des... c'est beaucoup plus codifié, le E131.
C'est très codifié dans l'industrie cosmétique aussi. C'est-à-dire que dans l'industrie cosmétique, tous les ingrédients sont codifiés.
Ben oui, parce qu'il y a une nomenclature internationale.
Voilà, il y a la nomenclature et tout ça.
Mais elle existe aussi pour les produits alimentaires.
Plus ou moins, c'est-à-dire
dans les produits alimentaires. Ils ont des passe-droits sur certains ingrédients.
Il y a tous les additifs et tout ça, mais les ingrédients, si c'est un ingrédient naturel, je pense qu'on peut le mettre direct sur l'étiquette. Sans
même additifs, ils ont le droit de mettre juste le nom.
Les
ils
additifs,
ont le droit de mettre caramel
compliqué.
Au lieu de mettre E951, par exemple.
C'est juste, c'est là qu'Open Food Facts, en fait, ça donne un coup de main à comprendre toutes ces choses-là et à comprendre qu'en fait, finalement, c'est la même chose.
Moi, j'avais une question sur Open Food Facts par rapport au bio.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a une prise en compte des ingrédients d'origine biologique dans les produits?
C'est une prise en compte des labels, en fait. Et pas que les labels bio, d'ailleurs, toutes les autres labels. Donc, il y a une zone où on peut remplir les labels qui sont présentes sur l'étiquette du produit. Si c'est le label bio, voilà, on va dire bio, ça va être reconnu, ça va être mis en avant. Donc, on va voir le logo du bio sur le site, on va voir ces choses-là.
Mais oui, mais ingrédient par ingrédient, parce que maintenant, le bio est complètement dévoyé. Tu peux avoir un produit bio avec 80% de des ingrédients qui peuvent pas être biologiques de toute façon.
C'est le problème du AB, hein.
Ça va être plutôt un problème du label et c'est très lié en fait à l'idée de label elle-même, c'est-à-dire qu'un label ça a tout un cahier de charge derrière et toute une spécification à qui on donne ce label, comment on le donne, etc. Et c'est lié à l'information.
Comme c'est tellement le bazar entre le bio, entre le nature et progrès, le bio européen, les labels biodynamiques. Il y a tellement de différences. Le label AB aujourd'hui, il ne vaut plus rien.
Mais là, moi, ce que je trouve intéressant, justement...
On n'en était pas là. C'était Open Food Facts.
Non, mais Clara, tu as tout à fait raison. Là, justement, en fait, on passe au-delà de ça, puisque c'est une base de données très objective.
Oui, mais justement, c'était par rapport aux ingrédients.
Donc,
il y avait une case de prévu par rapport à la composition d'un produit pour marquer cet ingrédient était d'origine biologique.
C'est le cas.
L'idée, c'est de recopier.
Ça peut permettre du coup de voir que certains produits labellisés bio vont avoir autant de merde que certains autres produits en fait. Mais on va pas pondérer positivement un truc bio par rapport à un autre truc. Là, la base de données est très objective.
C'était la base des ingrédients. Donc, les ingrédients bio étaient identifiés comme ingrédients bio.
tout autant que, voilà. tout autant que c'est identifié sur l'étiquette du produit. C'est-à-dire que nous, d'accord. on ne fait pas plus que l'étiquette du produit.
Parce qu'en fait, il y a deux trucs. C'est soit tu peux scanner le produit, tu scannes le code barre et donc tu as la liste, soit tu recopies à la main, c'est la majorité des contributions ou pas ? Comment ça se distribue les contributions à la base de données entre les scans et les recopies manuelles ?
Mais le scan, ce n'est pas une contribution en elle-même. C'est-à-dire qu'on scanne le produit, on rajoute les images s'ils ne sont pas là.
D'accord.
Tout est une contribution manuelle.
Ah
en
ouais,
fait.
T'es obligé en fait.
Tout, c'est
d'accord.
une recopie de l'étiquette. En fait, c'est l'idée c'est de renseigner les infos qui se trouvent sur les étiquettes des produits
d'accord.
dans la base de données.
D'accord.
Et aujourd'hui,
donc
en
c'est
France,
vraiment ce que les gens écrivent en fait.
C'est vraiment ce qui est sur l'étiquette.
Ouais.
Parce que c'est la photo qui est reine, on
ouais,
va dire.
Je comprends.
C'est-à-dire que s'il y a une info qui apparaît sur le site qui n'est pas présente sur une photo, ouais. s'il n'y a pas la preuve. Que l'information était vraiment sur l'étiquette du produit, bah dans ce cas-là, on a un petit problème. C'est-à-dire que peut-être qu'on va changer l'information sur le site pour garder l'info en synchronisation
ouais,
avec la photo. Donc il faut qu'il y ait vraiment la preuve que cette info-là se trouve sur l'étiquette du produit.
Ouais.
Donc l'étiquette gagne toujours, c'est ça l'idée, c'est que ce qui est sur l'étiquette, c'est ça qui est la vérité, on va dire, même si ce n'est pas vraiment la vérité. Mais nous, on ne peut pas vérifier ça, ce n'est pas notre travail.
Non, c'est juste de la data.
Voilà. C'est la data, voilà, c'est la data obtenue des étiquettes de produits. Donc nous, on va recopier ce qui est sur l'étiquette du produit. Et sur l'étiquette du produit, oui, très souvent sur les produits bio, il y a une petite étoile dans la liste d'ingrédients qui dit voilà, tel produit
est issu de l'agriculture biologique.
Issu de l'agriculture biologique.
Issu de l'agriculture biologique. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des données en relation pour permettre aux gens de s'informer. Et c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que par exemple, sur un additif, peut-être qu'on ne va pas dire forcément celui-là est bon, celui-là est mauvais, parce que sur les additifs, très très souvent, c'est extrêmement controversé. Ça, il y a des gens qui disent que c'est bon, il y a des gens qui disent que c'est pas bon. Voilà, on
enfin, à partir
peut pas
du
dire...
moment où c'est autorisé, on peut imaginer que c'est pas spécialement mauvais. Vu
autorisé,
que l'autorité européenne
donc, l'autorisation,
n'autoriserait pas des poisons. Hein.
Non, bah non, ça n'existe pas.
L'autorisation is a fact. Et
oui,
l'idée d'Open Food Facts, c'est de présenter des facts. Voilà. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est on va dire oui, voilà, telle chose est autorisée. Après, à vous d'interpréter. Est-ce que ça nous convient, ça ne nous convient pas, ou je ne sais pas, on a d'autres idées, ça ne nous plaît pas, etc. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de mettre en relation des informations. Donc, vous allez trouver un additif, vous allez trouver des liens de cet additif vers Wikidata qui vont permettre d'identifier l'additif, etc., de trouver les infos qui sont ailleurs, et ça va permettre à la personne de s'informer. Mais nous, on essaie quand même de rester assez fact, c'est-à-dire rester sur les faits. Et puis chacun s'informe comme il sait le faire. Parce
alors
que...
justement, alors, est-ce que vous savez si les gens s'informent ?
Moi, je me suis informée, par exemple.
Ouais. Non, mais tu nous l'expliquais tout à l'heure.
Il y a combien de contributions, par exemple, sur la base ? Est-ce qu'on arrive à chiffrer à peu près le nombre de contributeurs ?
Les contributeurs, je ne veux pas dire des conneries parce que je n'ai pas les chiffres exacts.
C'est une fourchette, tu vois. Si c'est
des quelques milliers. Hein.
Quelques milliers.
C'est quelques milliers.
En France ou...
En France, en fait, non, la base de données est la plus riche en France, je l'ai dit tout à l'heure. On est à peu près à 80 000 produits.
D'accord.
On va dire, renseignés. Et les contributeurs, ça doit être quelques bons milliers, je dirais.
Est-ce que vous êtes proche d'autres organisations comme par exemple Foodwatch ? J'imagine que vous connaissez ?
Non, pas vraiment.
La Foodwatch est une ONG internationale qui travaille justement sur la composition des aliments. C'est par exemple eux qui ont attaqué Leclerc l'année dernière parce que ils affichaient non pas Leclerc, on va pas citer de marque, mais
oui.
une marque de yaourt.
Non, il faut en citer trois.
Non, mais on s'en fout. Une marque. Non, mais si on peut balancer aussi. Mais comme je les ai plus, je voudrais. Ah oui, voilà la marque des deux vaches là. Par
ah
exemple.
Les deux vaches.
Hein,
ouais.
Les deux vaches qui faisaient des
alors,
yaourts.
Alors les yaourts
bio
au chocolat sont
aux
super
myrtilles,
bons.
Des yaourts bio aux myrtilles sans myrtilles quand même. Enfin, avec très peu de myrtilles ou Maggie qui faisait du potage attends c'était un potage au bœuf sans bœuf enfin tu vois des trucs
en fait c'est par exemple
je sais pas si ça te dit quelque chose. Ils ont fait pas mal de campagnes de presse l'année dernière et justement ils sont beaucoup là-dessus sur dénoncer les incohérences de composition alimentaire. C'est une ONG internationale, hein, là. Ils sont en Allemagne.
On est sûrement pas les seuls à faire ce genre de choses.
Mais ils n'ont pas le même protocole. Hein. C'est pas une. Enfin, si ils appellent aussi les citoyens, il me semble. Je sais plus parce que. Bon, enfin bref. Excuse-moi. Vas-y, continue. Donc Foodwatch ne te dit rien.
Non, okay. Moi perso. Mais moi je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas quelqu'un de comment dire de. Moi je suis pas militante là-dessus. C'est-à-dire que l'idée me plaît. J'aime bien l'idée de renseigner les données et de faire cette base de données libre. Parce que c'est ça finalement le fond, c'est d'avoir toutes ces infos et toutes ces données qu'on peut réutiliser derrière. Après, comment on les réutilise? Et c'est plutôt là que Foodwatch agit en fait. Nous, on va pas aller. Nous, notre rôle, enfin notre idée,
c'est collecter pas, l'info.
C'est nous, pas, c'est, on collecte ouais. l'info et on la rend disponible. Après, ce que les gens font avec. Et si les gens veulent aller faire des procès ou faire des manifestations ou des protestes et dire arrêtez d'appeler ça des myrtilles alors qu'il n'y a pas une myrtille dedans et ça, nous on va voir ces choses là parce qu'on les voit en fait que c'est marqué myrtille dessus et que finalement on va dire il y a cette chose là mais notre rôle c'est juste de fournir ces informations aux gens mais pas forcément d'aller agir suite à ces choses-là.
Une question, Ludovic ?
Oui, moi j'ai une petite question. Finalement, c'est super cette base de données, mais il n'y a pas un moyen de savoir si il faut manger le produit ou pas, ou si c'est bon pour la santé ou mauvais pour la santé ?
Oui, c'est une très bonne question. Après, chacun fait comme il peut.
Non, pour le bon pour la santé, mauvais pour la santé, c'est. Enfin. Il y a d'autres gens qui se préoccupent à ça. Pas qu'au Open Food Fact. Nous, on a. Le projet Open Food Fact implémente une des formules de calcul d'indicatifs nutritionnels des aliments qui ont été soumis à une expérimentation cet automne, je pense. Donc il y a une grande expérimentation avec ça. Et nous, on implémente en fait la notation de A à E. Et on l'implémentait même avant, en fait. C'est une formule qu'on implémentait depuis très longtemps et ça a été proposé. Et finalement, il y a eu cette expérimentation, etc. Donc, si on scanne un produit qui a les informations nutritionnelles remplies, on pourra avoir cette note calculée de A à E, qui est une des notes qui a été soumise à l'expérimentation, dont les résultats, on les attend toujours, je pense.
C'est vachement intéressant, cette notation. Pourquoi on ne l'a pas dans les magasins?
Ça va venir.
Je vais essayer de.
Question innocente. Hein.
Question très innocente.
Déjà, quand tu vois la difficulté pour. Parce qu'il y avait un projet d'étiqueter les produits qui ont des teneurs très élevées en matière grasse, de mettre un code couleur pour repérer les produits qui ont du mauvais gras. Et les industriels ont tellement fait le forcing pour que ça ne se fasse pas, on n'imagine pas qu'ils ne fassent pas le forcing.
Il y a eu effectivement tout le débat cet automne à propos de ces étiquetations, cet étiquetage des produits alimentaires. Cet étiquetage des produits alimentaires, je ne vais pas m'exprimer par rapport à la qualité de l'étiquetage ou pas, voilà.
Non, mais moi, je peux juste dire un truc qu'un nutritionniste m'avait expliqué. C'est qu'eux s'étaient battus pour que, sur l'étiquetage, quand c'est gras, ça s'affiche rouge, quoi, tu vois, comme un truc, attention, danger. Et les industriels ont trouvé ça beaucoup trop agressif. Eux, ils préféraient avoir du violet,
oui, justement,
rose, enfin, des choses beaucoup plus douces que du rouge.
C'était un des débats de cet automne à propos de cet étiquetage, etc.
Il y avait une très bonne émission de télé sur France 2
sur ce sujet
où les industriels expliquaient mais vous comprenez ça va faire baisser les ventes.
C'est l'idée,
c'est bien l'objectif, hein.
pour revenir au but d'Open Food Fact, donc nous on essaie de fournir les informations. Après, si quelqu'un veut et justement de donner la possibilité aux gens qui veulent faire une appli, qui jugent de la composition ou de ces choses là ils peuvent faire ça. Notre but, c'est de fournir les données et de renseigner ces données. Et notre base de données, mine de rien, elle est quand même assez importante. C'est-à-dire que c'est une sorte de petit rêve pour...
Est-ce qu'on peut faire des recherches, j'imagine?
Justement, j'ai expliqué tout à l'heure, on a parlé.
Je vais pas te faire répéter.
Non, on a parlé tout à l'heure.
J'écouterai. Question déjà posée, mauvaise note pour moi, excuse-moi.
On a parlé tout à l'heure du pouvoir de la puissance de comparaison, on va dire, quand on a une telle base de données, on peut faire tout un tas de comparaisons, on peut faire des graphiques, de regarder sur le graphique, par exemple, constater que, justement, constater que les comment ça s'appelle ça, les bouillons bio n'ont pas moins de sel qu'un bouillon non bio.
Tout à fait.
Et quand on voit bio, on se dit, ah, bio, il faut acheter bio, c'est très bon. Mais en fait, non, pas du tout. Le label bio ne te dit pas combien de sel tu vas mettre dans ton bouillon, enfin, le bouillon cube, pardon, cube. On ne va pas te dire combien de sel tu vas mettre. Ils vont mettre pareil. C'est juste que le persil qui est dedans va être bio.
Oui. Voilà, donc et le sel bio, là, on fait autre chose.
Le sel bio, je pense, ça n'existe pas, d'ailleurs.
Voilà.
Parce qu'il y a une catégorie des choses pour lesquelles ça n'existe pas, du bio.
Oui. Mais l'autre question que j'avais, est-ce qu'il y a la valeur énergétique
dedans? Oui, tout à fait.
Ouais,
tout à fait.
C'est indiqué.
C'est les informations nutritionnelles qui sont sur l'étiquette vont être renseignées sur le site. Donc, les informations nutritionnelles telles qu'on les trouve sur l'étiquette. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des produits alimentaires qui ne renseignent pas ça, si j'ai bien compris, c'est devenu obligatoire depuis un petit moment maintenant. Enfin, un petit moment, c'est-à-dire quelques mois, je pense. C'est devenu obligatoire de renseigner les informations nutritionnelles. Et donc, si elles sont là, elles vont être sur le site Open Food Facts et on va pouvoir comparer les produits entre elles par rapport à ces informations-là.
Super. Alors c'est openfoodfact.org, j'imagine.
.org, .fr, la version française elle existe sur .fr, mais s'il y a des écouteurs à l'international, en fait ça existe à peu près pour tous les pays de l'Europe au moins, enfin pour tous les pays du monde, donc ça existe, c'est pas point, ça va pas être point quelque chose d'autre, ça va être plutôt le préfixe pays, .openfoodfact.org. Et là on va trouver son pays, moi je trouve mon pays à moi je viens de Roumanie, donc je trouve là les produits roumains, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Est-ce qu'il y a le prix aussi dessus?
Il n'y a pas le prix.
C'est dommage.
Il n'y a pas le prix, mais il y avait une idée de mettre le prix. On a des infos sur, par exemple, où est-ce que le produit a été acheté, dans quel magasin, dans quelle ville, etc. Il n'y a pas encore le prix. Il n'y a pas le prix. En fait, il n'y a pas de projet précis là-dessus, mais il y a des idées pour rajouter des prix, parce que ça va pas être un seul prix, ça peut être plusieurs prix, pour acheter des prix pour pouvoir pour pouvoir renseigner sur les prix aussi. Après, pareil comme pour toutes les autres informations, les gens vont utiliser cette info comme ils veulent, parce que c'est l'idée.
Ben oui. Voilà. Ludovic, t'as une autre question peut-être?
Non, vas-y, il faut remplacer l'animateur. Apparemment, il a déserté.
Il a dû trouver le gâteau.
Il est pas loin, il a trouvé les bières.
Ah, il a trouvé les bières, ça, l'animateur.
Non, mais bon, on peut le remplacer, c'est pas un problème. Hein.
Il faut conclure.
Merci beaucoup, Anka, d'être venu sur Libre à toi. Donc c'était vraiment une très belle présentation et Open Food Pack c'est un super projet et il va être mis sur Libre à toi la semaine prochaine. Openfoodfacts.libratoire.org.
Voilà. Bon, on va faire une petite coupure musicale et on se retrouve très vite. Merci à toi,
Anka. Merci à vous.